Cours de philosophie de l'activité artistique par le père Philippe à Saint-Gedard, le 17 février 1989.
Paraît-il qu'il y avait des cours annoncés qui n'ont pas encore été commencés. Alors, il y a la philosophie de l'art, il y a la philosophie biblique sur Job. Puis j'ai pu un troisième. Alors, on va commencer la philosophie de l'art. Je ne sais pas si Job sortira de son tombeau. Que j'aimerais beaucoup. Parce que c'est tellement beau le livre de Job. C'est un livre tellement extraordinaire. Sur toute la théologie du mal. Si on le peut, on le fera. Peut-être en petite session, ça. Et puis c'est bon. Les autres années, il y avait toujours un cours de théologie biblique. On l'intitule comme ça pour lui donner un titre, qui est d'essayer d'entrer dans toute la grande parole de Dieu de l'Ancien Testament. Alors, ici, philosophie de l'art, c'est très important pour nous de voir en parallèle l'éthique et la philosophie de l'art, le facere et l'agere, pour exprimer ça selon les termes du latin, et on peut dire classique. Vous voyez, dans les forêts, vous avez déjà rencontré cette chose très belle et très émouvante. Dans les forêts de pins, quand vous voyez un pied seulement, et puis partant du pied, mais ici au début, ce sont des jumeaux. Et c'est très beau, deux troncs parallèles. Et quelquefois, c'est encore plus proche que ça. C'est encore plus émouvant. C'est comme quand on voit deux jumeaux, c'est toujours très émouvant. Surtout quand tous les deux sont en Saint-Jean. Alors ça, c'est très très émouvant. Comme il n'est pas le seul, je parle de l'autre. Mais alors, c'est quand même quelque chose de très beau, ça. Eh bien, en nous, dans l'ordre pratique, il y a deux frères jumeaux. L'activité artistique, l'activité du facere. Il y en a un qui est né avant l'autre. Du moins, il fait toujours beaucoup plus de bruit. C'est le facere. Vous voyez, le facere, il est là. Il fait toujours beaucoup plus de bruit. L'autre, en réalité, est né avant, mais n'est pas sorti du sein maternel, conçu avant. C'est du ressort, ordinairement. Paraît-il que c'est le premier qui sort, n'est pas le vrai premier. Paraît-il, ça expliquerait la Bible, prenez. Parce que la Bible regarde tout simplement selon la manifestation. Alors, le premier qui sort du sein maternel n'est pas le vrai premier. C'est l'autre qui est premier. Demandez ça aux experts de l'art génétique, je dis bien. Et alors, celui-ci est en réalité le premier. C'est vrai, l'agere en nous. Donc, l'éthique. La philosophie éthique. La philosophie de l'agere, c'est la philosophie de l'éthique. Et la philosophie de l'activité artistique, c'est la philosophie du facere. Bien, ces deux activités, nous les portons en nous tout le temps. Tout homme porte en lui les deux. Mais chez certains, le facere s'est très développé. Chez les architectes. Et c'est très développé. C'est vrai, architectonique, hein, faut pas l'oublier. Donc, les architectes sont les princes du facere. Toujours. Aujourd'hui, moins prince, parce que tous les princes se sont démocratisés, mais moins prince qu'avant, mais il le demeure quand même. L'architecte, c'est le prince du facere. Architectonique. Et dans la durée, qu'est-ce qui est le prince de la durée? L'amour d'amitié. curieux de voir ça. Ça ne veut pas dire que je vais commencer la philosophie du peinturé par l'architecture. Non. C'est curieux du reste. Ici, on commence par l'amour d'amitié, qui est, je crois, la manifestation et la réalisation la plus parfaite de la durée. Toutes les vertus sont pour l'amitié. Parce qu'avoir un ami qui n'a pas de vertu, pas commode à supporter. On verra ça, point de vue de la durée. Tandis que du côté du fatuéré, vous voyez, il n'y a pas de connexion entre les arts. Il n'y a pas de connexion. C'est pas parce qu'on est architecte, qu'on est musicien, qu'on est peintre, qu'on est tout. Tandis que l'adjuré, il y a une connexion dans les vertus. Donc, le fatuéré est toujours un peu anarchique. Les artistes, c'est toujours un peu anarchique. C'est bien. Sauf quand ils reçoivent une grâce extraordinaire qui les jette en bas de leur art et qu'ils sont obligés de devenir novices de l'adjuré. Il faut une grâce très particulière pour ça. Parce que d'habitude, ils se tiennent debout et puis ils aiment bien. L'artiste est indépendant. Il est autonome, l'artiste, en tant qu'artiste. Tout le temps. Et il aime ça. C'est le loup. Vous savez, la femme de La Fontaine. Le loup et le chien. Alors le loup, il est ici. Et le chien, il est ici. Je ne veux pas dire que la vie, c'est un chien. Non, non, c'est pas ça. Mais facilement. Quand la durée domine, on peut devenir chien, avec un collier au cou. L'obéissance, c'est un collier au cou. Mais alors évidemment, c'est une obéissance qui est mal comprise, à la manière de La Fontaine, qui comprend mieux le loup que le chien, puisqu'il est lui-même poète. Un saint ferait l'inverse, en disant l'obéissance vous en oblige. Et vous donne la dignité. Mais c'est très curieux de voir ça, vous voyez, parce que on voit Hegel et au fond La Fontaine là qui disent un peu les mêmes choses. Le grec, c'est l'artiste, c'est l'homme libre. Abraham, c'est le croyant. Il se met au service, il obéit. C'est très très curieux. Ce serait intéressant du reste de mettre ça en parallèle. Vous voyez la femme de La Fontaine, hein, le loup et le chien. Vous vous rappelez suffisamment de ça? Vous le jouez une fois. Mais alors bien, en mettant le loup à sa place, et le chien aussi. C'est très 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 beau ça. L'artiste joue un peu un loup, tout le temps. Ça développe une psychologie de loup. Personne qui aime l'autonomie la plus forte qui soit. Tandis que l'adjuré développe en nous une intériorité. L'artiste doit avoir une certaine intériorité, mais l'artiste manifeste. Il a besoin de dire. Il a besoin de dire. C'est vrai, les grands artistes du théâtre, ils ont besoin de, ils ont besoin d'un auditoire qui les écoute. Tandis que le fatuéré, non. Il est seul. Il aime. Donc, nous portons en nous les deux. Et c'est très important de voir que chez certains, le fatuéré va dominer et que chez l'autre, c'est l'adjuré. C'est une manière très intéressante d'étudier la philosophie humaine des philosophes. Quand je dis la philosophie humaine, c'est-à-dire la philosophie pratique. Et la synthèse des deux, d'une certaine manière, c'est l'aspect politique. Qui implique de la durée, qui implique du fatuéré. Et quand la politique n'implique que du fatuéré, vous avez Machiavel et les complices. Et les séquatches, pour les respecter par leur nom. Les séquatches de Machiavel. Ils font une politique uniquement de virtuosité, d'art. Le tout, c'est d'être au pouvoir et d'y rester. Alors, tous les procédés sont bons. Mais c'est ça, la grande astuce. Vous voyez ? Donc, c'est une politique du fatuéré, de la virtuosité. Et vous avez des politiques alors qui sont de la gérer. Ça, c'est beaucoup moins. Ça arrive beaucoup moins souvent. Dans un monastère, dans une abbaye, il y a un équilibre entre le fait de gérer et la durée. Dans votre vie, à chacun d'entre nous, il y a un équilibre entre le fait de gérer et la durée. Faire des cours, c'est du fait de gérer. Prier, c'est de la durée. La liturgie, c'est de la durée du fait de gérer. Oui, parce que il y en a qui chantent, pas de gérer. Il y en a qui chantent comme à l'opéra. C'est le fait de gérer. C'est le fait de gérer pur. Et il y en a qui prient sans chanter du tout. Alors, cela, c'est la durée pure. Et alors, au bout d'un certain temps, si tout le monde priait dans le silence, priait la prière liturgique, il y aurait que le prieur qui commencerait, puis Eric qui continuerait. La durée pure. C'est constamment, vous voyez, deux lignes, toute notre vie comme ça. C'est extrêmement curieux. Dans une industrie, il y a la durée et le pas durée. Ça, c'est sûr. Et c'est quelque chose qui est très intéressant à saisir, parce que, de fait, si la durée prend une très grande place en nous, c'est vrai. Si la durée prend une très grande place dans la vie monastique, il ne faut pas que le fait de gérer disparaisse. Et je suis persuadé que quand le fait de gérer disparaît, il se maintient encore en liturgie, mais c'est pas suffisant. Parce que la liturgie, elle est trop religieuse pour compenser un fait de gérer. Il faut un certain travail manuel. La cuisine, c'est du fait de gérer. S'il n'y a que la cuisine, il y a quelque chose qui manque. C'est vrai. Mais d'autre part, chaque moine doit trouver son fait de gérer dans chaque vie humaine, pour être une vraie vie humaine. La politique, ça c'est différent. Il y a des gens qui aiment la politique à l'intérieur du monastère. Vous voyez, qui ont leur point de vue, leur projet politique. Puisqu'il y a des élections aussi. Donc il faut avoir son projet politique, n'est-ce pas ? Pour être élu. Pour être élu, ça va en graduant socius. Puis après, prieur. Puis après, ça monte. Bien, on va plus loin encore. Hein. Évêque, cardinal, pape. Et ça, c'est la politique de l'Église. Il y a une politique dans l'Église. Alors, il y en a qui, dans la politique, regardent la durée avant tout la prière. Et puis, il y en a qui regardent la durée. Et pendant le concile, on avait mis sur le dos des cardinaux conservateurs et puis révolutionnaires. On les avait mis, certains traditionnalistes et d'autres révolutionnaires, progressistes. En réalité, c'est fâcherie à durée. C'est très curieux et c'est très intéressant. Alors, il faut réfléchir là-dessus. Parce que nos activités, assister à un cours, c'est du fâcherie à durée. Vous assistez à un cours par obéissance. La note dominante, c'est donc la durée. Si vous êtes là, c'est la durée. Parce que s'il n'y avait pas ça, on ferait autre chose. Assister à un cours, l'éveil de l'intelligence. Éveiller son intelligence, c'est quoi ? C'est de la durée ou du fait de gérer ? C'est ni l'un ni l'autre. Il y a au-dessus du fait de gérer et la durée, qui est l'ordre de la philosophie pratique. Il y a ce qu'on appelle la philosophie spéculative. La philosophie contemplative. Or, assister à un cours de philosophie, c'est éveiller notre intelligence spéculative. Faire de la philosophie, c'est éveiller notre intelligence pratique et spéculative. Donc, on assiste à un cours par obéissance. Autant que possible, on est éveillé. On peut assister à un cours et dormir. N'est-ce pas ? L'obéissance ne va pas jusque-là. On assiste à un cours, on y est présent. Je peux dormir. rien compris, ça n'a pas d'importance. J'ai matériellement obéi. Normalement, la finalité demande qu'on soit éveillé, que notre intelligence s'éveille. Alors, donc il y a le point de vue du fatchéré, il y a le point de vue de la durée, il y a le point de vue de l'intelligence, il y a le point de vue du fatchéré. Vous prenez des notes, c'est une œuvre artistique. Il y a certaines personnes qui prennent des notes de façon très artistique. Pour gratter, c'est du fatchéré de gratter. Gratte papier, c'est du fatchéré. On peut les prendre plus ou moins bien, de façon plus ou moins artistique. Vous voyez ? Donc, vous voyez comme c'est complexe, hein, nos activités. Et si vous essayez de comprendre durant votre journée, vous voyez qu'il y a du fatchéré naturel. Évidemment, votre fatchéré en écoutant un cours, sauf si vous êtes très artiste et que vous faites des caricatures pendant ce temps-là, n'est-ce pas, pour vous tenir éveillé, bien évident. C'est parce que si vous ne faites pas de caricature, vous ne vous tiendrez pas éveillé. Mais ça existe, même dans la vie religieuse. Certains qui font des caricatures, c'est très bien. C'est très bien. Si elles sont bien faites et que ça vous permet de mieux écouter. Ce qu'il faut, c'est que le voisin ne le voit pas. Parce que ton mère regarderait, tiens, oh oui, oh, je vois. C'est du fatuéré. Nos activités sont très complexes, hein, activités humaines. Alors, on va étudier ces deux aspects-là. Je vous dis, du même tronc, l'homme, c'est quelque chose en nous. Et c'est complexe. Alors, je crois qu'au point de vue philosophique, la philosophie de l'art est la première génétiquement. Je crois. Pourquoi ? Parce que la philosophie de l'art repose sur l'expérience du travail. Travailler dans n'importe quel domaine implique un certain fatchéré. Mais même gratter du papier implique un certain fatchéré. C'est l'expérience du fatchéré, l'expérience, je veux dire, du travail, qui convient à ça. Or, l'expérience du travail, il me semble bien, c'est l'expérience la plus typiquement humaine. L'homme est un travailleur. Oui, et la psychologie, là, rend raison de ça. Quand quelqu'un ne travaille plus, ça devient dangereux. C'est dit dans l'écriture, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Vous voyez, le non-travail engendre la destruction de la durée. Et c'est, je crois, le travail qui est l'expérience la plus étendue de toute notre vie. Le nombre d'heures de travail. Ça, c'est affolant. À tel point que pour certains, quand on les met, non pas au chômage, parce que le chômage, je comprends que ce soit désolant, et quand ils ont terminé, qu'on leur dit maintenant, vous avez terminé, vous pouvez recevoir une petite pension. On est désolé, on ne sait plus quoi faire. Et c'est vrai, la plupart des hommes, pas les femmes, ça c'est autre chose, c'est une autre raison. Parce qu'elles ont le travail à la maison. Alors elles sont pas, elles n'ont pas du tout le même désarroi. Et l'homme a un désarroi. La plupart des gens, c'est un moment très difficile à vivre, souvent. Il faut être attentif à ça, au point de vue spirituel, au point de vue apostolique. Quand vous avez des hommes qui ont travaillé énormément leur vie, puis subitement, en raison de la crise économique, en raison de tout, on avance. Le moment où ils doivent prendre leur retraite. Un moment difficile. Je vous ai cité cette parole d'un bon dominicain fait au Père Garrigou-Lagrange. On a dit au Père Garrigou-Lagrange. Lagrange, il vaut mieux arrêter vos cours. Parce que vous êtes trop fatigué. Ça voulait tout dire. Vous êtes trop fatigué. Alors le père Garrigou a simplement répété, mais alors qu'est-ce que je vais faire? Alors le bon père qui était à côté de lui dit, mais mon père, vous allez contempler maintenant. Vous avez toujours dit que la contemplation était supérieure à l'enseignement. Ce qui est vrai. Alors maintenant donc, vous êtes libéré d'enseignement, vous n'avez plus qu'à contempler. Oui, je l'ai dit. Mais autre chose, le faire. En réalité, ce n'est pas le faire, c'est naturel. C'est le réaliser dans sa vie. C'est très curieux, comme l'homme est fait pour le travail. Il aime ça. Et on détraque les hommes quand on leur donne un travail qui n'est plus humain. Et c'est ce qui a détraqué notre société, notre communauté humaine. Elle est détraquée par ça. Quand il y avait l'art artisanal, on avait bien plus d'hommes qui étaient des hommes. Dès qu'il y a eu le travail en usine, où on verra, le travail a perdu sa signification profonde. Évidemment, l'homme a perdu sa dignité. La plupart des hommes n'acquièrent leur dignité d'homme que par le travail. Ça ne va pas très loin au point de vue de la personne, si vous voulez. C'est une base. Tout psychologue dira que tant qu'on garde un certain sens, un certain courage dans le travail, c'est pas perdu. On peut toujours faire quelque chose de quelqu'un qui est un travailleur. Mais quelqu'un qui est un dilettant, raffiné, épicurien, comme dilettante. On ne peut rien en faire. Rien en faire du tout. Il devient un poids. C'est très très curieux. Ça. Et ça, c'est très intéressant à voir combien l'activité du travail est une activité, vous voyez, radicalement humaine. Elle nous saisit dans tout ce qu'on est, un vrai travail humain. Elle nous saisit dans tout ce qu'on est. Et vous voyez, c'est toujours l'équilibre très difficile à passer pour ceux qui ont déjà travaillé un peu dans le monde et qui passent à la vie religieuse. Parce que dans la vie religieuse, l'importance de la tuerie est bien plus grande qu'avant, mais l'importance du faturé diminue. C'est bien. Écouter des cours, c'est un drôle de travail. C'est un travail très particulier. C'est pas du tout la même chose. D'être à son bureau et travailler, ou d'être à son champ et travailler, c'est tout à fait autre chose. Et donc il y a tout un équilibre de vie entre le faturé et la durée. C'est très important de comprendre, on doit être lucide de ça. On doit comprendre qu'il y a quelque chose, ben oui, il faut se rééquilibrer autrement. Il y a une mutation complète de la personne humaine. Et dans la vie contemplative pure, encore plus. Heureusement qu'il y a des cours pour maintenir un tout petit peu. Mais quand la vie contemplative ou un noviciat où il n'y a pas de cours pour éveiller l'intelligence, où il y a de la dévotion c'est la durée. Hein. C'est pas le faturé. Oui, vous pouvez avoir une dévotion liturgique pour mettre des cierges à Saint-Antoine, c'est du faturé. Mettre des petits cierges à Saint-Antoine, c'est du faturé. Il y a des gens, c'est ça leur dévotion. Ah, c'est le faturé qui se réintroduit, vous voyez. On sait encore mettre des cierges à Saint-Antoine. Mais quand la dévotion est réduite à ça, pas grand-chose. Hein. Ça demande ce qu'il y a derrière. L'équilibre de notre vie humaine et de la plupart des vies, pour ne pas dire toutes les vies humaines. L'équilibre fondamental, c'est l'harmonie entre le faturé et la durée. Alors, vous voyez tout de suite qu'il y a deux finalités différentes. Le faturé est tendu vers une œuvre qui est à la fois le résultat et qui finalise. L'œuvre finalise toute l'activité du faturé. Toute l'activité artistique. Et toute cette activité artistique, c'est le travail. La durée est ordonnée à l'amour d'amitié. Comme la durée. La finalité propre de la durée, c'est l'amour d'amitié. Donc j'ai l'expérience qui me permet de comprendre parfaitement ce que c'est que la durée. Oui, la durée se comprend par la fin. S'il n'y a pas d'amour, un amour spirituel, un amour qui porte sur une personne, qu'il s'agisse d'une personne humaine ou de Dieu, la durée, donc l'éthique, la morale, commence par un premier amour. Il n'y a pas d'activité morale sans l'amour. Tandis que le fatuéré, lui, il commence comment? Pas par l'amour. C'est très curieux. Quel est le point de départ de l'activité du fatuéré? Le point de départ de l'activité du fatuéré, nous allons voir progressivement, je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire, c'est le travail. Oui, d'une certaine manière, c'est le travail. Regardez le gosse qui commence à faire des culs. Du mécano, ou la petite fille qui joue à la poupée. C'est du fatuéré. Ça ne veut pas dire qu'elle va éduquer sa poupée, quoi. Non, non, elle s'intéresse au fatuéré. Elle est infirmière, elle est... ça c'est tout de suite le fatuéré. Puis elle change des robes toute la journée. C'est du fatuéré, ça. Mais ça, c'est tout à fait... C'est le point de vue du travail. C'est pas l'éducation. C'est pour ça qu'il a tracassé en premier lieu. Donc, c'est le travail qui est au point de départ. Et alors, au-delà du travail, il y a une expérience. Comme ici, la durée, c'est un amour. Autrement dit, très vite, on voit qu'il y a deux orientations en nous. L'une ordonnée à une fin, une heure. Au noviciat, vous ne faites pas d'œuvre. Et le deuil du fatuéré. Et quand il a pris énormément dans notre vie, comme c'est dur, avant que la durée soit suffisamment forte, quand la durée est suffisamment forte, ça va très bien, c'est merveilleux. C'est pour ça qu'on donne des petites dissertations à faire, philosophiques. Une petite heure. Pas grand chose. Pendant toute l'année, on prend 10 pages de dissertation. Pas grand chose. Comparativement à tout ce qu'on faisait avant. Et c'est quand même quelque chose. C'est un petit point qui aide. Il y aura autre chose aussi. Il y aura du travail manuel. Puis du travail manuel à la manière d'un novice. Sauf quand c'est un travail manuel qui est dans le sens où on est qualifié, où on peut faire tout de suite quelque chose. Tout très important, mais ordinairement, un novice comme novice, on ne lui donne pas de construire une maison. Vous ferez votre noviciat en mettant tout votre talent pour construire un cinéma et dans lequel on habitera. Non, on ne donnera pas ça. Ordinairement, c'est pas ça. Ça me noie dans sa règle. Il ne faut pas donner aux novices une activité qui leur va trop bien. Ils pourraient s'en accueillir. Leur donnant une activité, au contraire, où ils sont vraiment des novices. Ils ne savent pas très bien. Donc, au bout de quelques années, on pourra utiliser leur efficacité. Mais au bout de quelques années, pas tout de suite. Pour que le noviciat soit vraiment un point de départ où on reprend tout. Bon. Je crois que c'est assez facile de prendre conscience qu'il y a en nous ces trois arêtes. L'aspect politique, encore une fois, c'est la synthèse des deux. Quelquefois, c'est très développé. Ordinairement, ça se développe plus tard. Pour saint Thomas, l'âge politique, c'est 45 ans. Comme on a de l'avance sur saint Thomas, mettons aujourd'hui 30 ans. Avant 30 ans, il y a des exceptions. Sauf si on a un oncle politique, à la manière de Platon. Si on a un homme qui fait de la politique et ministre, alors il vous prend vite dans son cabinet, il vous fait croire qu'il a besoin de vos conseils. Là, vous entrez en politique comme ça, très sérieusement. Mais vraiment, La politique, c'est plus tard. Homo politicus. L'homme est un animal politique. Ça fait partie de sa vie, ça fait partie de son développement. Et la vie religieuse, normalement, fait que l'homme est apolitique. Un grand A. Mais on est conscient. Mais on est conscient qu'on supprime le point de vue politique dans sa vie. Et qu'on ne fait plus de politique. Et on se réveille le jour des élections. On fait très peu d'actes politiques. Très peu. Quelques-uns dans sa vie. Mais on pourra donner des conseils. Parce qu'on aura quand même réfléchi philosophiquement sur la politique. Ce que les hommes d'État n'ont plus le temps. Donc alors ils vous demandent comment on réfléchit sur les rapports entre l'éthique et l'art. Bon, si je pars du travail, puisque c'est l'expérience, je vois que le travail est quelque chose de très complexe. Donc faisons la philosophie du travail. Regardons l'expérience du travail. Comme on a regardé l'expérience de l'amour d'amitié. Et voyons tout ce qui est impliqué dans l'expérience même du travail. Donc nous avons tous l'expérience du travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? Le travail, prenez tout de suite le travail là où il est le plus manifeste. Parce que le travail intellectuel, quand on est seul au travail intellectuel, quand on a un habitus, ça va, mais quand on n'en a pas, c'est pas commun du tout. Pas commun de savoir ce que c'est que le travail intellectuel. On regardera ce que c'est que le travail intellectuel. Et maintenant, je pars du travail de Joseph, le menuisier, l'artisan. Même si on n'a pas beaucoup servi du rabot dans sa vie, on sait quand même à peu près ce que c'est. Tout c'était un peu menuisier dans sa vie. En l'honneur de Saint-Joseph, quoi. C'est sûr. Au bon chrétien, on aurait été menuisier dans sa vie. Qu'est-ce que c'est que l'art artisanal? Le travail. C'est là où le travail est le plus visible. C'est là où le travail est le plus équilibrant. Donc, c'est une réalisation. Je crois que le travail demande l'efficacité. Et comme c'est tout de suite en étant quelque chose de très différent de l'amour d'amitié, le travail donne le sens de l'efficacité. Un travail non efficace, c'est ce qu'on fait souvent pendant le service militaire. Alors on prend l'expérience du travail non efficace. Hélas, hélas, parce que ça devrait être tout à fait autre chose. On devrait au contraire donner l'éducation du travail, de la coopération dans le travail. Mais très souvent, c'est ça. Hélas, pas d'efficacité. On demande beaucoup de gens, on fait ça parce qu'il faut faire ça. Alors, quand le travail n'est pas efficace, instinctivement, on en fait le moins possible. Et on a raison, vous voyez. On a raison, c'est pas la peine de se fatiguer pour rien. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de finalité. La nature horreur de la non-finalité. Et alors à ce moment-là, on en fait le moins possible. Oui. Et le travail devient quelque chose de désagréable. Alors que le travail, naturellement, est quelque chose de merveilleux. Puisque c'est un épanouissement. C'est un prolongement de l'homme par la réalisation et par l'efficacité. Donc le travail, comme tu sais tout à l'heure, regarde une œuvre. C'est l'œuvre qu'on regarde tout de suite. Il y a dans cette réalisation un projet. Une maquette, un projet. Une idée. Ah oui, une idée. Hein. On trouve la philosophie de l'idée. C'est ça qui dirige la réalisation. Le projet. Ce projet est dans notre tête, ce projet est dans une maquette. Il est réalisé en petit, il doit être réalisé en grand. On en donne une petite idée. Bien au contraire, tout est très très précis intérieur, le projet, qui est la mesure de la réalisation. Ça qui oriente. Évidemment, le travail du manœuvre, l'orientation, c'est tout simplement portez-moi ces valises à tel endroit. On fait le manœuvre. C'est un travail tout à fait particulier, le manœuvre. Hein. C'est un travail. C'est extrême. Mais comme le travail, si vous voulez, de celui qui surveille le tableau pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de point lumineux tout d'un coup. C'est très curieux de voir le travail de celui qui conduit le TGV. Vous êtes très attentif. Il ne faut surtout pas dormir. Surtout pas. Interdiction. Vous voyez, on devrait mettre une plaque comme ça pour chaque étudiant. Et alors on aurait un tableau avec les noms, on verrait, tiens, celui-là il dort. À l'université de Moscou, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Le recteur en haut a un tableau sur lequel il voit toutes les salles. Il est là, présent, l'œil de Moscou. Il surveille tout. Il surveille tout, absolument tout. Oui, attention. Hein. Alors, c'est le signal lumineux tout le temps. Mais il est lumineux pour faire croire que tout le temps, on vous regarde. En réalité, non. J'ai vu quelqu'un qui avait vécu à Moscou. Qui m'a expliqué comment l'université, cette surveillance constante. Oui, c'est un travail d'être surveillant. Parmi vous qui ont été surveillants, c'est un travail très particulier. Surveiller des bêtes, surveiller des hommes, surveiller des enfants, surveiller la machine. Mais si je prends un travail, c'est pour ça que je prends le travail beaucoup plus. On verra toutes les modalités du travail après. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est, quels sont les éléments de ce travail de l'artisan, l'œuvre. L'œuvre implique une matière. Le travail, c'est donc une réalisation dans une matière. C'est une coopération de l'homme et de la matière. C'est ça le travail, philosophiquement parlant. Je coopère avec une matière, qui sont des manuscrits. Si j'ai un chercheur, c'est une matière, un manuscrit, un livre, ou le poids. Le poids, c'est la matière. C'est la matière du menuisier. Il travaille cela. Réalisation, en vue d'efficacité, c'est l'œuvre. Hein. Et alors, il y a l'outil. Normalement, le travailleur a des outils. Très peu de travail, il n'y a pas d'outils. Très très peu. Parce que le bois, la matière, est plus rude que vos mains. Si vos mains étaient plus solides que le bois, que le fer, que l'airain, vous n'auriez pas besoin d'outils. Vous y pensez tout de suite, hein, quand vous chauffez un œuf. Si votre main était suffisamment solide, vous n'auriez pas besoin. Casseriez l'œuf dans la main. Bon, l'outil, c'est le prolongement de la main. C'est le prolongement de la main. Le travailleur manuel, la main qui coopère avec la matière, il y a l'outil. Alors, ce qui est très curieux, c'est que l'outil a pris des dimensions énormes. Le premier travail a été de faire un outil. Oui, alors ça, c'est aussi très curieux. Le premier travail était de faire un outil. Un silex qui permette d'avoir un outil. Ce qui prouve, vous voyez, je ne dis pas que le serpent mord sa queue, mais il y a un petit peu ça. C'est très curieux. Puisque le premier travail, c'est de faire des outils. Et l'outil sert à travailler. Donc qu'il y a une certaine immanence dans le propre du travail. L'homme est dans l'univers, il transforme l'univers, il se sert de l'univers pour transformer plus l'univers. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça. C'est une des données très nettes du travail, ça. Et qui n'est pas du tout, qui n'existe pas du tout dans le point de vue de l'adjuré. L'adjuré, aimer quelqu'un, un bien qui me transcende. Tandis que dans le travail, c'est pas aimer un bien qui me transcende, c'est transformer une matière pour mieux la transformer. C'est brillant. Et ça tout de suite dès le début. Il y a eu l'outil et il y a eu le feu. Prométhée qui a volé le feu aux dieux pour pouvoir travailler. C'est vrai que s'il n'y a pas le feu, il n'y a pas de travail. Très très vite, le feu a joué un rôle très très important. Ça, c'est l'élément de la nature. Hein. C'est d'une certaine matière, d'une certaine façon, la matière. Il y a la matière et puis le feu. Le feu, c'est l'élément qui nous relie au ciel, selon toute la grande vision des anciens, qui reste vrai. Le ciel, c'est le feu. On peut transformer le feu, pas beaucoup. Le feu, en définitive, est le plus puissant que tout. Et capter le feu va servir d'efficacité. Dans la mesure où on peut le capter. Mais feu, énergie, peu importe, c'est toujours la même chose. Il faut comprendre ça. C'est très très important. Il y a les deux extrêmes de notre univers. Hein. C'est la matière et le feu. La matière, on la transforme. Et le feu, on s'en sert. Autant qu'on le peut. Mais c'est toujours très dangereux de se servir du feu. Parce que... le feu risque de nous brûler au terme. C'est vrai, c'est intéressant de voir que le feu domine. Faites pas du feu ce que vous voulez. Je vous dis, tout le mythe de Prométhée. Et ça joue le mythe de Prométhée. Ça joue énormément. Il ne faut pas oublier la thèse de Marx. C'est là-dessus. Le marxisme est né à partir de Prométhée. Et le marxisme donne une grande théorie du travail. Et nous ne pouvons vraiment comprendre le marxisme qu'en faisant la philosophie du travail. Le marxisme, c'est l'idéologie hegelienne appliquée au travail. Donc c'est quand même très important pour nous de comprendre un peu ça. Alors, l'outil qui est ce que l'homme a fait. Et l'outil va prendre des dimensions de plus en plus grandes. Jusqu'au nouvel outil, l'ordinateur. Le prolongement de la main, le prolongement de nos raisonnements, de nos calculs, l'ordinateur. Je ne dis pas le prolongement de l'intelligence. L'intelligence n'a pas de prolongement. Grâce à Dieu. Tandis que, exactement comme l'amour, l'amour n'a pas de prolongement. Il n'y a pas d'outil pour aimer. Il n'y a pas d'outil pour être intelligent. C'est le prolongement du raisonnement et de nos raisonnements, nos calculs. Alors, c'est très curieux que chaque fois que l'outil se perfectionne, il y a une transformation du travail. Le travail restera toujours philosophiquement le même, mais une transformation. Et on peut noter les différents âges, la conquête du feu avec l'art, la conquête par le point de vue de l'outil, de la matière, puis la machine à vapeur. Cette machine, c'est comme quelque chose comme outil. Vous avez l'électricité, vous avez toutes les machines qui vont pouvoir se développer. La machine, c'est un outil. L'automobile, c'est un outil. L'avion est un outil. Et l'ordinateur est un outil. La philosophie de l'outil prend une très grande place aujourd'hui.